Chapitre 107. Pour descendre, il faut emprunter une échelle droite et massive dont les épais degrés de chêne craquent à peine malgré l'orage. En s'enfonçant, Vincent a l'impression de s'immerger dans un univers fantastique. Cette salle-là dégage une toute autre atmosphère. Aucun écho ne se forme dans son silence étouffé. Un parfum aussi étrange qu'agréable flotte dans l'air. Vincent s'arrête un instant et s'en emplit les poumons. Parmi les différentes notes, il identifie un mélange de vieux cuir, de parchemin et de bois précieux. Ayant atteint le bas de l'échelle, Cavell pose le pied sur un dallage semblable à celui de la crypte au sarcophage. Il tourne sur lui-même, sans savoir où arrêter son regard. Au mur sont suspendus des boucliers, dont certains arborent des armoiries aux couleurs pâlies par les siècles, mais aussi des traces de coups dues à d'anciens combats. Des étendards et des pièces de vêtements sont également exposés çà et là. Une chemise jaunie tachée de sang séché, un manteau brun si vieux qu'il pourrait tomber en poussière. Vincent remarque une cape verte en piteux état qui semble avoir été fendue en deux. Les murs sont en grande partie occupés par une bibliothèque intégralement rempli d'épais grimoires empilés, mais aussi de parchemins roulés et d'une impressionnante quantité de documents, simples fascicules de tout format, notes reliées par des coutures grossières, croquis, codex, plans anciens. L'accumulation déborde également de deux longs coffres de rangement bas en bois sombre qui disparaissent en grande partie sous la masse. Des milliers d'ouvrages s'entassent devant lui. Là aussi, l'Orient rencontre l'Occident, mais pas seulement. Là encore, les époques et les langages de l'humanité se télescopent. Le reste de la salle est encombré d'objets les plus variés, entreposés sur des amoncellements de caisses et de malles qui s'élèvent en pyramide. Des casques militaires de différentes époques, des statues, des fragments de stèles gravés en diverses langues. Un masque mortuaire, recouvert d'éclats de jade poli, semble le regarder de ses yeux blancs. Vincent s'approche de ce florilège issu de multiples civilisations. Certaines caisses sont imposantes et recouvertes de draps ou scellées par d'énormes cachets de cire intacts. Au pied de l'une d'elles s'alignent trois petites amphores. Descendu à son tour, Addison contemple la profusion désordonnée autour de lui. Henri s'engage le dernier sur l'échelle.
C'est un véritable musée,
s'exclame-t-il ébahi. Sans doute le plus précieux d'entre tous, murmure Charles, qui s'attarde sur un volume de planches anatomiques reliées par des plaques de bois. Il le referme délicatement et passe à d'autres archives. Certains ouvrages sont fermés par des lanières de cuir, beaucoup sont équipés de coins de métal, pour être posés sans user leur couverture. Chaque liasse, chaque reliure, représente une somme de savoir. Il est question de tout ce qui constitue le monde. Des traités de mathématiques en grec et en arabe, des herbiers de plantes médicinales en latin, d'antiques recueils de lois et des dizaines d'autres manuscrits dont il ne saisit pas l'objet. Il en caresse les pages avec une expression béate. Plus loin, une section semble regrouper des registres, des inventaires, mais aussi des récits de voyage.
Tout ce savoir réuni, toutes ces langues.
Comme si cet écrin hébergeait la quintessence des connaissances recueillies par les anciens. Tellement de provenances. Sans doute le fruit de lointaines expéditions destinées à rassembler toute l'expérience des peuples en un seul lieu. Dans un portfolio, Addison pointe un dessin représentant une église en forme de croix aux branches égales qui paraît littéralement enterrée dans une contrée plantée d'arbres exotiques. Vincent désigne un volume dont le fermoir métallique est orné de symboles mystérieux.
Tant d'études, issues d'un temps où seul l'essentiel était écrit. Nous aurons beaucoup à apprendre de ces messages venus du passé.
Henri s'attarde sur les objets. Il musarde entre les différentes antiquités.
« Avez-vous remarqué ?» lance-t-il.
« Quoi donc ? » Malgré le nombre d'éléments liés à la chevalerie qui se trouve ici, il n'y a pas une seule arme, aucune épée, pas la moindre lance, ni fléau, ni masse, comme si les outils de violence avaient été bannis.
Addison acquiesce, impressionné par l'esprit d'analyse du jeune homme. Attiré par ce qui ressemble à une carte annotée, Vincent déplace une pile de volumes et achève de la dérouler avec précaution. Il souffle sur le voile de poussière qui la recouvre.
Elle ne ressemble pas à ces documents académiques à l'agencement policier. On dirait plutôt un relevé, dont les traits, maintes fois interrompus, indiquent qu'ils n'ont pas été tracés en une fois. Peut-être au fil des jours et d'une navigation.
Des commentaires émaillent les côtes, dont Vincent n'identifie pas la localisation. Ces petites notes, compactes et fines, semblent être de la main même du voyageur en train d'explorer de nouvelles contrées. Sans doute l'un de ces pionniers qui ont eu l'audace d'ouvrir les voies.
Cavell croit déchiffrer une date. Anno Domini MCCCVI.
Vincent relève les yeux, pensif.
1306. On dirait le compte-rendu d'une expédition. Ceux qui ont réuni ces trésors sont sans doute allés les chercher plus loin que nous ne le soupçonnons.
Charles acquiesce. Leurs odyssées n'ont pas été seulement géographiques, mais aussi spirituelles et scientifiques.
Vincent s'agenouille pour observer une tablette d'argile. Les sarcophages de la crypte abritent probablement les explorateurs qui ont rassemblé tout ça.
Cela expliquerait les différentes régions suggérées sur les couvercles et les scènes d'échange qui y sont représentées.
Charles embrasse du regard l'ensemble de la salle. Il nous faudra des années pour étudier et tenter de comprendre tout ceci.
Sans doute une vie, répond Vincent. Il s'intéresse aux malles closes empilées. Que peuvent-elles contenir?
Les acheminer depuis les limites du monde connu n'a pas dû être une mince affaire.
Aussi spectaculaire que soit ce lieu, c'est d'abord pour elle qu'il a été créé.
Fallait-il que ce qu'elle renferme les ait impressionnés pour que ces hommes se soient unis par-delà leurs différences?
Les limites du monde connu, répète Addison.
Vous avez sans doute défini le dénominateur commun de ce qui nous entoure.
Il faudra nous y confronter sans a priori. Certains de ces savoirs, de ces magies, se sont peut-être perdus depuis si longtemps.
Vincent soulève une sphère de cuivre oxydé qui semble symboliser un crâne, dont plusieurs zones portent des indications dans une écriture inconnue.
Le relatif désordre du lieu laisse penser que ceux qui ont entreposé ces inestimables trésors n'ont pas eu le temps de s'y consacrer complètement.
Il étend les bras parmi les innombrables objets.
Le véritable trésor se trouve ici, déclare Cavell. Le donjon, le dédale et tout ce qui a été élaboré et bâti n'existe que pour le préserver. Ceux qui ont imaginé ce sanctuaire ont initié la mission que vous et vos compagnons poursuivez. Réunir les savoirs et les protéger de l'oubli et des soubresauts de l'histoire.
Les garder de la folie des hommes, glisse Charles en s'attardant sur un manuscrit.
Nous aurons besoin de toute l'érudition de nos compagnons pour avoir une chance d'en saisir la portée.
Vincent approuve. Tous les trois restent silencieux, songeant à leur découverte et à tout ce qu'elle implique.
Après un moment, Vincent relève la tête.
Charles, vous m'avez bien dit que votre confrérie de chercheurs ne portait pas de nom.
Effectivement, nous sommes toujours restés anonymes.
Ne pensez-vous pas que ce sanctuaire pourrait à lui seul en justifier un?
Après tout, il est le symbole le plus éclatant de votre quête.
De notre quête, Vincent. Elle est aussi la vôtre.
Les compagnons du donjon, cela sonne bien.
Addison répète pour lui-même, articulant les mots en silence. Un sourire éclaire son visage.
Pourquoi pas ?